Le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, cet acronyme dérivé d'une appellation anglo-saxonne est passé maintenant dans le langage courant pour désigner donc des pensées ou des images mentales gênantes qui apparaissent de manière involontaire et qui entraînent donc des rituels ou des comportements qui semblent anormaux. Selon les enquêtes épidémiologiques, 2% de la population serait touchée par ces TOC qui sont très variés comme on va le voir et qui peuvent littéralement gâcher la vie de ceux qui en sont atteints. C'est le dossier de la tête au carré avec vos questions, vos messages et vos témoignages, franceinter.fr, également le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la machine à fantasmes égyptienne qui ne cesse de fonctionner avec le suspense autour des découvertes du tombeau de Toutankhamon. Bonjour Catherine Decopé.
Bonjour, les autorités égyptiennes ont confirmé il y a quelques jours la détection de deux chambres secrètes dans le tombeau du pharaon, une annonce qui relance l'hypothèse d'une découverte du tombeau de Néfertiti, Mathieu.
Et c'est notre pharaon Stéphanie Texier qui est aux commandes de cette nouvelle tête au carré préparée par Emmanuel Fournier avec Estelle Honora.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà les TOC dans le dossier d'émission dans quelques minutes. Mon invité, le psychiatre Franck Lamanière. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vraiment se guérir définitivement d'un trouble obsessionnel compulsif ou est-ce qu'en réalité on peut seulement apprendre, grâce à vous, à vivre mieux avec ?
Alors non, heureusement, on guérit pas tout le monde, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont plus de TOC du tout. C'est-à-dire parfois avec l'aide d'un traitement médicamenteux préventif des rechutes, mais il y a des patients qui depuis 15, 20 ans n'ont pas le moindre TOC, vivent normalement comme vous et moi, j'allais dire.
Avec une diversité, on va le voir avec vous, qui est vraiment étonnante, mais c'est incroyable ce qui peut se passer. Hein.
C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs ce livre, c'est pour que les gens puissent connaître un petit peu tout l'éventail des TOC, parce qu'on connaît toujours les laveurs, les vérificateurs, mais il y en a tellement d'autres.
C'est vrai, et on va en décrire quelques-uns qui sont assez étonnants. Vous allez nous expliquer justement comment vous soignez vos patients, et puis on va décrire pendant l'émission donc ce que sont ces TOC, avec bien sûr les questions des auditeurs qui nous rejoignent. Et à la une de la science aujourd'hui, l'hypothèse d'une découverte du tombeau de Néfertiti, une nouvelle fois relancée.
La reine Néfertiti, belle-mère de Toutankhamon et élevée au rang d'icône comme lui, était l'une des femmes les plus belles et les plus puissantes du monde antique. L'emplacement de sa tombe reste un mystère. La clé de cette énigme se trouve parmi la montagne de trésors de la tombe de Toutankhamon et pourrait mener les archéologues à l'une des découvertes majeures de notre époque.
Et tous les regards de l'égyptologie qui sont donc braqués vers Louxor, Catherine Decopé.
Oui, alors c'est la troisième fois en 8 mois que le gouvernement égyptien évoque la possibilité de la découverte d'une autre sépulture dans le tombeau de Toutankhamon. Alors quoi de neuf aujourd'hui? Les résultats d'une étude préliminaire au radar viennent d'être confirmés. Elles révèlent la présence de deux cavités cachées derrière les murs du tombeau.
Bonjour Pascal Vernus.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, directeur d'études à l'EPHE, c'est l'école pratique des hautes études. Alors cette dernière annonce du gouvernement égyptien confirme les résultats d'une étude radar, donc menée en novembre dernier. Il y aurait donc bien deux chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon, vieille de 3300 ans, hein, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Alors, qu'il y ait des chambres qui aient été murées, c'est tout à fait possible dans la mesure où la tombe de Toutankhamon a été faite à la hâte. Il est possible qu'on ait obturé des pièces qui ne rentraient pas dans la conception de la tombe. Ça, nous sommes ici dans la possibilité tout à fait, c'est plausible. C'est tout à fait plausible et si on en croit le radar, c'est avéré. Mais il s'agit de pièces murées, sans plus. Après, il y a une construction dans laquelle peut-être la politique n'est pas tout à fait absente. Je le dis, nos amis égyptiens ont un petit problème à l'heure actuelle avec le tourisme. Il est bien évident qu'une annonce comme cela est susceptible de relancer le tourisme, ce que je souhaite pour ma part.
Oui, hein, donc on fait chauffer la marmite un peu en ce moment.
Il y a un peu de buzz.
Avec un peu d'effet d'annonce.
C'est distillé comme ça, scientifiquement, et il y a un peu de buzz, il faut le dire. Mais cela dit, ça n'empêche pas que, effectivement, ces pièces puissent révéler peut-être une autre tombe. Ça, il faut en parler de manière raisonnable et sans s'exciter.
Pascal Vernus, le ministre égyptien des Antiquités, parle peut-être d'une certitude à 90% de la présence de ces deux chambres. Alors, ça relance l'hypothèse d'une présence d'une autre tombe, une hypothèse qui est soutenue depuis 2005 par le Britannique Nicolas Reeves de l'Université d'Arizona. Quelle est cette hypothèse précisément?
Alors, pour Nicolas Reeves, nous aurions affaire à la tombe de Néfertiti.
Parce que pour
lui, la tombe de Néfertiti n'a jamais été découverte. découverte. Là-dessus, on peut avoir quelques réserves. Je n'ai absolument aucune certitude, mais je peux vous dire simplement que beaucoup d'égyptologues pensent que la momie de Néfertiti, nous l'avons, c'est la momie qu'on appelle la Young Lady, qui a été trouvée dans la tombe d'Amenhotep II, qui avait été réutilisée comme cachette. Alors, je ne m'avance pas, mais
c'est l'hypothèse la plus sérieuse pour l'instant.
C'est une hypothèse très sérieuse, parce qu'elle est fondée tout simplement sur l'ADN. Hein. Ouais. Alors, on a fait des études ADN assez complexes, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est une complication inouïe, mais de ces études ADN, il est clair que cette Young Lady était très liée à la famille d'Amenhotep III, de Toutankhamon, et que ce soit la Néfertiti, ce n'est pas absolument exclu. En tout cas, on ne peut pas dire de manière brutale qu'on n'a jamais trouvé la tombe ou la sépulture de Néfertiti. Il est possible qu'on l'ait trouvée, j'en sais rien, mais...
Sauf que là, on nous dit qu'elle est avec celle de Toutankhamon, quand même.
Alors, je précise que ce ne sont pas les autorités égyptiennes qui le disent.
Non, ça, c'est Rives qui fait ça, c'est son dada, après tout, c'est respectable.
Qui est ce monsieur ?
C'est un égyptologue qui s'est spécialisé depuis très longtemps dans la vallée des rois. C'est son dada, il a fait des choses très intéressantes et tout à fait respectables.
Mais c'est le seul à avoir cette idée-là ou d'autres la partagent ?
Non, disons que c'est surtout son idée à lui, parce qu'on est un peu gêné que ça... D'abord, vous savez, le problème, qu'il y ait des pièces, ça c'est un fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai aucun problème qu'il y ait des pièces qui aient été obturées. Que ces pièces renferment une sépulture, ça c'est déjà un peu plus difficile, parce que je ne peux pas l'exclure, mais enfin, en général, les pharaons respectent relativement leurs devanciers, et qu'on ait complètement obturé une tombe d'un devancier, bon, je ne veux pas l'exclure, mais c'est déjà un peu gênant. Et alors, le troisième degré, où là, on est vraiment dans l'extrapolation, dans l'hypothèse la plus poussée, c'est celle de Rives, que ça soit précisément celle de Néfertiti, c'est-à-dire un nom qui, par sa seule énonciation, fait rêver l'humanité entière. Cela dit, c'est possible, je vous répète, mais je demanderai quand même d'avoir un peu de prudence.
Pascal Vernus, si jamais on trouvait quand même une sépulture derrière ces murs, alors qui ça pourrait bien être ? On parle quand même d'une femme qui aurait régné avant Toutankhamon, parce que ce qui a précédé finalement Toutankhamon est assez obscur encore pour les égyptologues.
Ce que l'on sait, le roi Akhenaton meurt en l'an 16-17 de son règne. Qu'est-ce qui lui succède ? On sait par les documents que lui succède une reine. C'est tout ce qu'on sait. Elle s'appelle Ankhéperouré, et c'est une reine très mystérieuse qui règne pendant 3 ans, mais on a quelques documents. Alors là-dessus, il y a des tas d'hypothèses. Pour les uns, c'est Néfertiti qui lui aurait survécu. Pour d'autres, ça serait une de ses filles, une des filles d'Akhenaton, que l'on voit tenir un grand rôle dans les archives d'Amarna, et donc c'est tout à fait possible. Hein. Il y a, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reine qui a régné 3 ans après Akhenaton. Alors, pourquoi pas Néfertiti ? Pourquoi pas une autre de ses filles ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Maintenant, évidemment, on peut imaginer que cette tombe de Toutankhamon recèlerait la tombe justement de la reine qui a régné juste avant lui. Mais je vous dis, ce qui me gêne, c'est que ça soit totalement obturé. Ouais. C'est ça qui me gêne.
Mais ça fait beaucoup d'incertitudes dans la généalogie royale, Pascal Vernus. On a peu de certitudes au fond.
On discute sur l'ADN. Vous savez qu'on a fait l'ADN systématique de tout ça. Alors le grand problème, c'est de savoir est-ce que Toutankhamon était le fils, il était le fils d'Akhenaton, ça c'est sûr, hein, mais est-ce qu'il était le fils d'Akhenaton et de Néfertiti, ou le fils d'Akhenaton et d'une autre dame
Kia, elle s'appelle.
On a parlé Kia, parce qu'il est arrivé une chose étrange. Il est arrivé une chose très très étrange. Akhenaton avait Néfertiti. Un homme serait comblé. Mais non, lui, ça ne lui suffisait pas. Il a plaqué pendant un certain temps Néfertiti pour s'amouracher d'une dame qui s'appelait Kia. Après quoi, il est revenu, semble-t-il, à ses amours précédentes. Enfin, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, trop d'incertitudes. Ouais. Donc, on peut penser que Kia serait la mère de Toutankhamon, mais là encore, avec des réserves extrêmes.
Alors, vous parliez, Pascal Vernus, de l'enjeu touristique. Il y a quand même aussi un enjeu scientifique, à savoir, est-ce que ce sont les Égyptiens ou les Britanniques qui vont découvrir cette fameuse chambre secrète qui éventuellement comporterait cette sépulture.
Bien sûr, il est évident qu'il y a aussi une question de nationalisme, hein, et tout à fait légitime, d'ailleurs je le reconnais volontiers. Pour les Égyptiens, ça serait merveilleux, parce que la plus grande découverte du monde, c'était celle de Toutankhamon. Imaginez qu'on retrouve une autre tombe, que ce soit les Égyptiens qui la trouvent, ça corrigerait en quelque sorte cette irruption des étrangers dans leur passé. Et c'est légitime, hein, il faut le respecter, il n'y a rien à dire là-dessus.
Pascal Vernus, parce que là on parle de radars, hein, qui ont permis d'identifier, justement de percer un peu les secrets de ce tombeau. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir directement là, ce qui se passe dans ces chambres secrètes ?
Alors là, c'est quelque chose qui est à remettre dans un passé, dans un futur assez lointain. Parce que d'abord, il faudrait au mieux passer une petite caméra microscopique. Ça, c'est une technique qu'on connaît, mais ça demande déjà des précautions. Supposer que cette caméra nous révèle effectivement des objets et une sépulture. Que faire pour l'atteindre ? bien entendu, il faudra déposer les fresques. Et vous imaginez ce que c'est que déposer des fresques. Ça se fait, hein, ça se fait. Mais ça demande une des précautions infinies. Et puis surtout, ça demande une grosse responsabilité. Je voudrais pas être le ministre de la culture égyptienne qui décide de déposer les fresques d'un monument qui est peut-être parmi les 10 merveilles du monde, ou à tout le moins les monuments les plus connus au monde. Donc, à mon avis, ce n'est pas tout de suite qu'on aura la réponse. Hein.
Le gouvernement égyptien annonce modestement d'autres recherches radar dès la fin du mois.
Oui, voilà. Qui sont moins intrusives.
Oui, parce que c'est, l'intrusion, c'est quand même difficile. Ouais. Et puis, il faudrait quand même être sûr. Le radar, ça peut marcher par calcul de ce qu'on appelle déficit de masse. Hein. Ça marche, hein, y a pas de problème. Mais que ça soit assez précis pour dire il y a du métal, il y a des produits organiques, comme il l'a dit, je ne sais pas, mais je reste quand même un peu prudent hein, là-dessus.
Bon, ben, en tout cas, on a bien compris le message de la prudence par rapport à ces effets d'annonce hein, qui n'en finissent pas, puisqu'ils se succèdent les uns aux autres. Est-ce que vous savez si Toutankhamon ou Nefertiti avaient des tocs? Pascal Vernus
Non, je sais que le malheureux Toutankhamon avait des problèmes à la jambe, hein, ça c'est très grave, des problèmes aux dents, alors peut-être aussi qu'il avait des problèmes psychologiques, malheureusement on ne peut pas encore rentrer dans sa cervelle et heureusement il y a des gens mieux placés peut-être pour nous le dire.
Voilà, pour étudier des gens plus jeunes, hein, évidemment. Voilà. Merci beaucoup Pascal Vernus, je signale que vous êtes l'auteur d'un livre, Le Dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, qui est sorti aux éditions Plon et qui est toujours disponible. Merci Catherine Ducopé.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. La découverte de la planète qui a la trajectoire la plus elliptique jamais observée. Elle s'appelle HD 2782b et elle a une période de révolution de 597 jours, mais surtout elle réalise un trajet en forme de soucoupe volante, une trajectoire de rotation qualifiée d'excentrique par les chercheurs américains qui émettent deux hypothèses pour expliquer donc cette excentricité. Cette planète en aurait heurté une autre ou bien elle aurait été éjectée de sa trajectoire par l'une des deux étoiles de son système binaire. Une enquête à suivre. Le sol mexicain tapis de papillons gelés, une tempête de neige a donc gelé sur place plus d'un million de papillons monarques non loin de Mexico. Les rafales à 80 km/h et les 30 cm de neige au sol n'ont pas compromis pour autant la migration annuelle de cette espèce qui est trois fois plus importante qu'en 2014. Les pertes ne représenteraient pas plus de 3% des monarques migrateurs. Pour l'instant, des grappes de papillons s'accrochent aux arbres en attendant qu'un temps plus clément leur permette de repartir pour les États-Unis. Et puis la femelle panda star du zoo de Beauval est peut-être enceinte, une première en France, elle s'appelle Wan Wan, elle a 7 ans et demi, ça ne fait pas moins de 2 ans que l'on tente de la faire s'accoupler avec son congénère. Une tâche difficile visiblement puisque les pandas femelles ne sont fertiles que 48 heures par an. Cette fois, le zoo de Beauval a fait venir des experts de Chine et pendant ces 48 heures de fertilité, le mâle, qui était exceptionnellement placé dans l'enclos de Wan Wan, s'est montré plus intéressé par la sieste que par la copulation et donc au dernier moment, les vétérinaires ont procédé à une insémination artificielle qui a 60% de chances de fonctionner. La grossesse sera confirmée en mai puisque la femelle bloque le développement de l'embryon dans son utérus pendant plusieurs semaines. Allez, dossier sur les TOC dans un instant et j'attends vos messages et vos témoignages sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr. Bon après-midi avec nous.
Next, I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light. Keep control. It's our differences that make the richest of our soul. It's time to walk around and try to find a sound. Way up near the cloud and way down in the ground. Heads up for the light where we never die. And that the moonlight we start so on fight. Heads up for this time where fear's not a leader. Where all the mind is stronger. Life is for lovers. Heads up for the light where we never die. And that the moonlight we start so on fight. Heads up for this time. Heads up for the light where we'll never die. And the moonlight we'll start to on fight. Heads up for this time where fear's not a leader. Where open mind is stronger. Life is for lovers. Heads up for the light where we'll never die. And the moonlight we'll start to on fight. Heads up for this time.
Heads up avec Jane.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et les troubles obsessionnels compulsifs dans le dossier de l'émission, ils sont nombreux, variés, ils concernent 2% quand même de la population. Et cette maladie complexe, heureusement, peut être guérie. Franck Lamanière, vous êtes spécialiste justement des TOC, des phobies et de l'anxiété sociale. Vous êtes psychiatre, enseignant à l'Université Paris-Descartes ainsi qu'à l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive. Et vous publiez donc chez Odile Jacob, TOC ou pas TOC, reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir. Voilà, les messages arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission, beaucoup de témoignages. Je vous les transmettre dans un instant. Cet acronyme TOC, Franck Lamanière, est largement passé maintenant dans le langage courant. Depuis quand est-ce qu'on s'intéresse en France justement à ces troubles et comment est apparue la maladie ?
Alors la maladie, elle existe depuis toujours. Hein. C'est ce qu'on appelait autrefois d'un terme qui n'a plus trop cours, la névrose obsessionnelle. On a appelé ça TOC parce que on a voulu bien définir de quoi il s'agissait. C'est très important que tous les spécialistes parlent de la même chose. C'est-à-dire que un TOC, ça se définit avant tout par des obsessions qui sont des pensées, des images mentales, des impulsions, mais parfois des souhaits. L'impression de souhaiter quelque chose qu'on ne voudrait pas souhaiter. Justement, je te souhaite un bon cancer, Mathieu. Voilà, des choses comme ça qui vous arrivent dans la tête.
Vous avez entendu ça. Hein,
je l'ai eu de nombreuses fois. Beaucoup de gens ont l'impression d'être des monstres. Ils ont l'impression de souhaiter. Alors, c'est contraire à leur système de pensée, par exemple. Donc, ils ne pensent pas ça. D'autres qui sont assiégés par des images blasphématoires, la peur d'être pédophile, alors qu'ils ne sont pas du tout pédophiles, donc c'est des pensées, des images mentales, des impulsions qui sont involontaires. Alors ça arrive dans le cerveau, on n'y peut rien. C'est le fait d'un dysfonctionnement du cerveau. Ces pensées ne sont en rien signifiantes quant à la personne, justement. Elles créent un mal-être. Du coup, la personne se sent mal, ce que les Américains appellent discomfort, et ça pousse à faire des compulsions. Alors que sont des compulsions ? Ce sont des actes mentaux, penser volontairement à quelque chose, ou comportementaux, faire quelque chose volontaire, on décide de le faire mais au caractère obligatoire, on a du mal à ne pas le faire, et que l'on fait pour apaiser ce mal-être ou pour éviter une catastrophe.
Ouais. Alors, ils sont très variés. Hein. On va vraiment voir avec vous l'éventail de ces TOC. Certains sont mieux connus hein, dans l'opinion publique. Pierre nous dit ceci, est-ce qu'ils sont de nature à affecter, voire parfois empêcher une vie sociale et professionnelle, ces TOC?
Ah bah parfois, complètement. Y a des gens qui ont des TOC du matin au soir. Parce que le TOC, en fait, si on ne le traite pas, enfin, parfois ça peut rester stable, mais dans l'immense majorité des cas, la tendance est à l'aggravation progressive. C'est-à-dire, plus on fait les compulsions, les rituels, grosso modo, plus on est malade. Donc, avec le temps, plus on en fait, plus on va être malade. plus le toc vous grignote. C'est-à-dire, une personne, au début, bon, il lui faut une demi-heure pour prendre sa douche, puis ça va être 35 minutes, puis 40, puis une heure, puis deux heures, puis trois heures, puis quatre heures.
Alors, il y a ce témoignage qui est absolument incroyable. Effectivement, cet homme, hein, c'est ça, qui nécessitait quatre heures pour prendre sa douche et qui, du coup, à la fin, n'en prenait plus.
Alors voilà, justement, dans les tocs, parfois, il y a le l'évitement est proportionnel un peu avec l'intensité de la tâche à accomplir. C'est-à-dire que dans leur idée, lui, par exemple, c'était un informaticien, donc il rentrait chez lui, alors il disait, il sait que pour être bien lavé, enfin vous n'êtes pas très propre, donc mais lui il lui fallait 4 heures pour se laver. Donc 4 heures, alors il se dit, je prends pas ma douche tout de suite. Puis à minuit, il se dit, je prends pas ma douche maintenant, j'en ai pour 4 heures jusqu'à 4 heures du matin. Donc il était tellement propre qu'il prenait une douche tous les 15 jours.
Ouais,
mais et du coup, il se disait, il faut que je me lave encore mieux puisque ça fait longtemps que je l'ai pas prise. Voilà, ouais. Donc il y a une sorte de ou d'autres gens, par exemple, j'en avais une.
Alors, attendez, est-ce qu'il est sorti de cet enfermement, ce monsieur, ou pas?
Oui. Alors, il avait eu un traitement médicamenteux, bien sûr, à ce stade de TOC assez invalidant et important, plus la thérapie comportementale, il avait fait des progrès. Il lui restait un petit fond de commerce de TOC, c'est-à-dire qu'il n'était pas complètement guéri. Il y a des gens qui sont complètement guéris. Il y en a qui sont améliorés et il y a malheureusement quelques tocs résistants.
C'est-à-dire qu'il a réussi à diminuer le temps de prise de ses douches, par exemple.
Voilà, c'est ça. Je crois qu'on était arrivé à une demi-heure, ce qui est encore beaucoup trop, on est bien propre au bout d'une demi-heure déjà.
Écoutons le témoignage de Tchad. Il a 37 ans, c'était l'objet d'un documentaire sur National Geographic.
Je fais des gestes quotidiens que je devrais faire machinalement. Et là, l'obsession surgit dans mon cerveau. Quelque chose de grave va arriver. On est envahi par l'angoisse. Et on se sent obligé de faire un rituel pour la calmer. Le TOC est comme une démangeaison irrépressible. Et plus on se gratte, plus ça démange. Alors on se gratte encore et encore. Et on se retrouve coincé dans un rituel. Au final, on préfère fuir certaines situations. J'ai commencé à éviter de prendre des douches ou de changer de chaussettes. Parfois, je garde les mêmes vêtements toute la semaine. C'est horrible.
Voilà, ce témoignage qui rejoint parfaitement ce que vous décriviez tout à l'heure, Franck Lamanière. L'angoisse, la souffrance, les rituels, là, on avait une bonne description des symptômes, justement, de ces TOC. Hein.
Ouais, tout à fait, oui, là, manifestement. Et là, ce qui est bien, c'est que, justement, il explique très bien que plus on fait les rituels, là, en l'occurrence, les lavages, les choses, plus ça aggrave. Ça aggrave la maladie, si vous voulez. Alors souvent, dans le livre, j'ai fait des petits conseils pour les proches, que souvent des gens me disent, mais alors comment je dois faire? Est-ce qu'ils me demandent de tout nettoyer, de changer de vêtements, parfois à chaque fois que je change de pièce, etc. Est-ce que je dois le faire? Alors, ce que je leur réponds, c'est que ce que vous faites déjà, malheureusement, et vous devez continuer à le faire, parce que si vous arrêtez brutalement, l'angoisse serait trop forte et ce serait très, très pénible pour la personne. En revanche, essayez de ne pas faire de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas participer au rituel des patients.
Non, mais c'est l'enfer pour l'entourage,
ce
que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on le fait aux dépens de sa propre santé. Alors.
Moi, j'en ai eu, je vous dis, j'avais une personne, son conjoint devait changer de vêtements à chaque fois qu'il changeait de pièce. C'est un peu contraignant.
Légèrement, oui.
Un peu contraignant.
Ouais. Donc vous avez deux patients pour le prix d'un an dans ces cas-là?
Non, parce que c'est le patient qui a des TOC. L'autre, il ne fait que... Si vous voulez, quand vous voyez... je prends l'exemple d'un toxicomane. Un toxicomane qui est en manque, c'est vrai que s'il est en manque, il se fait une petite piqûre d'héroïne, il se sent mieux. Mais ce n'est pas le traitement de l'héroïnomanie de s'injecter de l'héroïne. Dans les TOC, c'est pareil. Donc, ce n'est pas le traitement des TOC de faire les rituels, les désinfections, les vérifications, les TOC superstitieux, enfin les compulsions superstitieuses. Mais... L'entourage, quand il voit le proche qui supplie, lave-toi les mains, s'il te plaît, je vais me sentir mal. Si on n'a pas un cœur de pierre, parfois on le fait. Alors, il faut savoir que quand on le fait, on croit bien faire, mais on l'aggrave. Ouais, ouais. C'est un peu comme si on donnait de l'héroïne à son enfant, c'est pas terrible.
Donc il faut faire de la résistance.
C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment que des patients à ce stade, en général, ils se font soigner.
Mais est-ce que les personnes qui ont des tocs sont conscients justement de ce qu'ils font subir aussi à leur entourage? C'est pas des personnes folles.
Alors pas toujours. Il y a, en particulier dans les tocs d'ordre et de symétrie, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à aligner, à ranger, à vérifier que chaque objet est à sa place. J'en avais un, même il se promenait dans son appartement avec un maître pour vérifier la distance des meubles par rapport au mur, etc. Et dès que sa femme laissait traîner quelque chose sur un meuble, c'était des histoires à n'en plus finir. Quand elle était absente, d'ailleurs, il allait dans le placard de son épouse et il alignait les escarpins à 2 mm 3 les uns des autres, comme dans une boutique. Alors quand elle rentrait...
À 2 mm 3
ouais, c'était bien aligné, bien rangé. Si vous voulez, quand elle rentrait, il disait, mais t'es allé dans mon placard. Alors, il utilisait le déni un peu, si vous voulez, comme ces alcooliques qui ont une dysarthrie, qui tiennent pas debout et qui vous jurent leur grand Dieu qu'ils ne boivent plus. Et ben, lui, il disait, mais non, c'est l'homme de ménage qui a fait ça, c'est pas moi. Il avait tellement honte, si vous voulez, d'être dans cette obligation de ranger, d'aligner qu'il ne pouvait pas, qu'il n'osait pas l'avouer à sa femme.
Franck Lamanière, ce message de Carole, j'ai 51 ans et depuis 3 ans, dit-elle, je souffre de toc. Ça a commencé par une sorte de dégoût à toucher, par exemple, la barre du métro. Depuis quelque temps, c'est même le contact humain que je ne supporte plus. Je suis en arrêt de travail depuis plus de 3 mois. Je suis sous traitement, en soins évidemment avec une psychiatre. Ensemble, nous recherchons l'origine de ce trouble qui m'envahit, m'invalide et me fait honte. Je ne sais pas si je guérirai de ces troubles. Je crois savoir que c'est très difficile.
Alors, c'est pas très difficile. Déjà, je lui conseille, il y a des solutions dans le livre, mais non, ça soigne. C'est-à-dire que il faut avoir un traitement médicamenteux adapté, efficace, souvent à bonne dose, et faire parallèlement une thérapie comportementale et cognitive, et en particulier une technique qu'on appelle l'exposition avec prévention de réponse.
On y reviendra
sûrement plus tard, mais les tocs résistants sont relativement rares. Alors on parle des tocs résistants, c'est-à-dire des patients qui ont eu tous les médicaments qui fonctionnent dans les tocs, qui ont eu des thérapies bien faites et qui ne vont pas mieux. C'est quand même assez rare. Donc, soit si le traitement ne convient pas, il faut le changer. Enfin là, c'est une affaire de spécialiste.
Ouais, mais ce qui frappe, c'est la lucidité de Carole quand même.
Ah, mais les gens qui ont des tocs, attendez, justement, les gens qui ont des tocs sont... Dans 99% des gens qui ont des tocs sont pleinement conscients. Ils savent bien que ce qu'ils font... D'ailleurs, beaucoup disent « Je sais bien que je fais est complètement crétin, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Ça, ils sont conscients.
Will you remember my hand caressing the milk of your skin? Will be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face would turn to other screens.
On ne sait jamais, vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. On s'est dit-tu, de toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes genoux, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit tu, de toute façon on ne se reverra plus. Au regard, au souvenir, je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir.
Will you remember my hand
cursing the milk of your skin would be a million attempts to celebrate the love we've seen.
We never met again. Then time goes by, search into the room where we find the lights. Doors stand over my face, on your tongue, sour taste. Just stand, time goes by, we look to the moon, nothing left behind. The hell, we are standing here, cause anyway, we never meet again.
Enlève tes chaussures.
Quoi? Pourquoi?
Enlève tes chaussures ou t'entres pas.
T'as pas pris tes pilules, toi.
Un, deux,
non, ça va,
trois.
Je les enlève. C'est bon, ça va, je les enlève. Il y en a marre, ça va, hein.
D'accord.
Putain de merde. Oh la vache, c'est quoi cette odeur? Ça a été attaqué par monsieur propre? Roy, faut que t'ouvres une fenêtre, mon pote.
Non! Pas de fenêtre.
D'accord, les fenêtres restent fermées. Les fenêtres restent fermées.
Tu cherches quelque chose, Dico?
Ouais, mon associé. Tu l'as vu? Il est pas venu toute la semaine.
Eh, hey, fais attention à la moquette, il y a plein de miettes qui... T'as pas enlevé tes chaussures?
Ça va, j'enlève mes chaussures, tout va bien, je les enlève. Tu vois? Ça y est, je les ai enlevées, d'accord? Voilà. Putain, t'es mal. T'as pris tes pilules?
Oh, je les ai fait tomber dans l'évier, accidentellement.
Non, Roy, arrête. T'as appelé Mancuso?
Il a déménagé.
Il a déménagé? Tu te fous de moi? Ça va, assieds-toi, détends-toi. Tout va bien. Tu respires. D'accord? Respire, c'est tout. Respire.
Voilà. Attention, voilà. Chaussures.
Voilà.
Et n'oublie pas les miettes.
Quoi?
Les miettes.
Plus de miettes. Je me débarrasse de toutes les miettes. Ça va?
Voilà, le film des associés Ridley Scott, hein, qui était sorti en 2003. Franck Lamanière, vous êtes notre invité autour de ce thème. Donc, Toc ou pas Toc, c'est un livre qui sort aux éditions Odile Jacob. Dans cet extrait, on voit l'angoisse extrêmement forte, hein. À part de celui qui est pris par ses tocs.
Ça me rappelle un événement, heureusement, ancien. J'espère que ça n'arriverait plus de nos jours. Il y avait une patiente qui avait un toc très, très grave et qui, d'ailleurs, était à cause de son toc en invalidité, qui ne pouvait plus travailler, qui va voir un médecin conseil, ce qui est légitime pour qu'on la contrôle. Et le médecin lui demande de se déchausser. Évidemment, c'est un truc qu'elle ne pouvait pas faire, justement, là, comme dans le, à cause de la poussière, dans ce qu'elle qualifiait d'endroit immonde où tout le monde marche avec ses chaussures. Et alors, le médecin conseil lui dit, déchaussez-vous, je vous dis, je connais la dépression. Alors, la patiente lui dit, mais j'ai pas de dépression, j'ai des tocs. Et alors, pour son mauvais esprit, elle s'était vue retirer sa pension d'invalidité. Alors, j'avais écrit à ce médecin conseil, se reconnaîtra sûrement, une longue lettre avec une bibliographie en anglais, etc., lui demandant de revoir ses cours sur les tocs. Alors après, il m'avait téléphoné en disant mais j'ai voulu lui faire un électrochoc. Mais l'électrochoc a failli être fatal parce que avec la suppression de sa pension, etc., ça a aggravé terriblement parce qu'elle avait aussi une dépression associée et elle aurait pu se suicider. Alors, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a dû majorer son traitement. Enfin, ça a été.
Donc, elle était quand même dépressive. Alors.
Elle avait à la fois dépression, mais ce qu'elle avait surtout, c'était des tocs. En tout cas, si elle pouvait pas se déchausser, c'était à cause des tocs. Mmh. C'était pas à cause de la dépression.
Ouais. Mais vous dites que c'est justement, ce sont des antidépresseurs qu'on donne aussi.
Alors, dans les tocs, il y a des médicaments qui ont fait la preuve indiscutable de leur efficacité. C'est-à-dire dans des études en double aveugle où certains reçoivent de la farine, certains reçoivent le vrai médicament. Donc, on peut comparer les résultats dans les différents groupes. Ce sont un certain type d'antidépresseurs et pas n'importe lesquels. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui sont inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Alors, ça veut dire quoi? La sérotonine, c'est un neuromédiateur, c'est-à-dire une substance qui permet la transmission de l'information d'une cellule nerveuse à une autre. Les médicaments qui marchent dans les tocs, ils inhibent la recapture de cette sérotonine. C'est-à-dire une fois qu'elle est passée dans la synapse, elle est reprise pour resservir au prochain passage, j'allais dire. Et les médicaments qui marchent, ils empêchent cette recapture. Alors, vous dire pourquoi, on ne le sait pas. ce qu'on sait, c'est que pour que ça marche, il faut que ce mécanisme d'action, et en plus, c'est pas à cause de ce mécanisme d'action, puisque sinon, tous les IRS, tous les inhibiteurs de recapture de la sérotonine marcheraient chez n'importe quel patient. Or, on va en donner un à l'un qui n'a pas marché, et on va changer, en donner un autre qui va marcher. Donc, en tout cas, pour que ça marche, il faut que ce soit un médicament de cette catégorie.
Une auditrice nous dit « Notre fils souffre de TOC. Les traitements médicamenteux ne s'avèrent pas très efficaces pour lui. Depuis 4 ans qu'il a été diagnostiqué, nous avons essayé diverses méthodes, allant de la kinésiologie à l'hypnose, en passant par l'acupuncture, la sophrologie. Et il s'avère que c'est l'acupuncture et surtout l'hypnose qui nous donne des résultats aujourd'hui. »
Eh bien, écoutez, remercions le Seigneur.
Oh ben non, mais non, on est dans une émission de science, là, quand même. On va remercier le Seigneur.
Je ne sais pas, tout est possible. Là, ce dont on parle, c'est les
vous doutez de l'efficacité de l'hypnose, franchement?
Non, pas du tout, pas du tout. Je dis que dans les TOC, c'est peu classique, si vous voulez. C'est peu classique. Ce qui est reconnu par la communauté internationale scientifique comme ayant fait la preuve de l'efficacité, ce sont les médicaments antidépresseurs sérotoninergiques et la thérapie comportementale et cognitive. Maintenant, si d'autres techniques, tout ce qui est mon patron, le professeur Pellissier à Necker, nous avait enseigné ça, toute technique qui peut apporter du bien à un patient est bonne à prendre. Donc, des approches multimodales avec d'autres choses, pourquoi pas?
Alors, puisque vous invitez le Seigneur dans cette émission, Franck Lamanière, vous parlez d'ailleurs tout de suite dans le livre, ce sont les premiers exemples que vous citez, ce sont les TOC religieux, moraux ou superstitieux.
Ah oui, alors c'est un premier...
Ils sont moins connus, ceux-là.
C'est un premier grand groupe. Et alors, c'est très important d'en parler parce qu'il y a des gens, ils pensent soit être habités par le diable, soit... C'est-à-dire que le TOC se manifeste par exemple, des pensées ou des images blasphématoires, ou parfois blasphématoires et sexuelles, l'image de la Vierge Marie en porte-jartel, ou des choses comme ça, qui arrivent dans le cerveau, donc la personne n'y peut rien. Ça, sont les obsessions. Et ils ont l'impression d'être responsables de ces pensées. Alors que non, ça n'a rien à voir avec eux. C'est-à-dire que s'ils ont ces pensées, ils ont ces pensées parce qu'ils ont un TOC. Et un psychiatre Stanley Rashman avait montré que justement, ce sont pas tant les intrusions, les pensées intrusives qui se posent problème, c'est la lecture qu'on en a. Si j'ai des pensées comme ça, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, je suis habité par le diable, je suis un pervers. Alors, on a ça dans les TOC pédophilie, par exemple, des gens qui sont assiégés par des images de pédophilie, alors qu'ils ne sont pas du tout pédophiles. Et donc, ils se disent, mais pourquoi j'ai ça? Ça doit vouloir dire que... Non, pas du tout. Ça veut dire j'ai un TOC.
Vous citez l'exemple de cette jeune femme juive qui pense à Dieu à chaque fois qu'elle va aux toilettes, alors que sa religion lui interdit.
Elle était en pleurs et suicidaire. Je lui expliquais d'ailleurs que justement, a priori, Dieu est bon, c'est un TOC, que la meilleure preuve, c'est que elle vient pour se débarrasser de ses idées. Donc, on ne peut pas être responsable de se sentir responsable de pensées involontaires. Voilà. Cette explication, justement, qu'il s'agit d'un dysfonctionnement, que ces pensées involontaires, on n'en est pas responsable, elle est fondamentale.
Et c'est déjà un grand pas dans la thérapie.
C'est très rassurant, très rassurant.
Dans son cas, même chose, est-ce qu'il y a eu régression du TOC?
Elle a été beaucoup mieux. À l'occasion de la naissance d'un enfant, quelques années plus tard, elle a rechuté, alors là, très gravement, d'un TOC de contamination. Alors là où il fallait qu'elle nettoie tout, qu'elle désinfecte tout. Alors les grands facteurs déclenchants d'ailleurs de pousser de TOC, ça c'est très intéressant, c'est tout ce qui est en rapport avec la perte, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, ou tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de responsabilité, et en particulier le fait d'avoir un enfant. Dans un groupe de 59 mères avec des TOC, 39% rapportaient le début de leur TOC pendant la grossesse. La grossesse est un grand facteur de TOC.
Donc il y a quand même un environnement particulier aussi qui favorise l'émergence de ces TOC.
Il faut pas confondre justement les...
C'est pas qu'un dysfonctionnement cérébral,
non,
alors.
Non, bien sûr, c'est pas un dysfonctionnement cérébral. C'est-à-dire, le logiciel TOC, on pense qu'il y a un terrain génétique qui met en place des schémas cognitifs tokien, c'est-à-dire une sorte de logiciel qui traite l'information de manière particulière. Ce logiciel, il est prêt, il est là en place, et il est prêt à se mettre en route à la première occasion. et les grands facteurs déclenchants, tout stress peut donner une poussée de toc, mais les choses que, dont je viens de parler.
Il y a des tocs superstitieux, là aussi, étonnant. Un homme qui avait peur de se réveiller en mesurant 1m20.
Ah oui, c'est étonnant. Bon, dans ce registre, j'en ai eu peur de se réveiller au temps des dinosaures, peur de mesurer 1m20, peur de devenir prêtre. J'en avais un qui avait un toc superstitieux. Par exemple, il entrait lorsqu'il montait dans le métro. S'il voyait une femme voilée, il avait immédiatement la pensée, oulala, tu peux devenir musulman. Il voulait pas devenir musulman. Non pas qu'il soit contre la religion musulmane d'ailleurs. Mais, alors, il fallait qu'il redescende à la station suivante, qu'il refasse le trajet inverse et qu'il remonte à la même station sans voir de femme voilée. Mmh. Voilà. Ça, c'est un rituel, c'est une compulsion. Quelque chose qu'on se sent obligé de faire. Pour éviter une catastrophe. Alors, peu importe les catastrophes, le pain quotidien, c'est le décès d'un proche, le décès d'un enfant, un malheur sans pouvoir dire lequel, faire des attaques de panique, devenir musulman, vous voyez, ça peut varier à l'infini.
Caroline nous dit, avec la méthode psychodramatique, j'arrive à résoudre des manifestations TOC sans médicaments. Je cherche avec mes patients et dans l'action et la mise en scène le moment où le patient, justement, a besoin d'avoir recours à ce comportement obsessivo-compulsif pour calmer son angoisse. Donc d'autres thérapies.
Peut-être. C'est bien d'avoir des témoignages. Il faut. Pourquoi pas. Je dois dire, je suis totalement incompétent dans ce domaine.
Toc ou pas toc, c'est chez Odile Jacob, Franck Lamanière. On vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre dossier. Elle est où à l'instant sur France Inter?
La tête carrée sur France Inter.
Allez, Franck Lamanière, suite et fin de notre dossier sur les TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs, avec beaucoup de messages des auditeurs. Benoît nous dit qu'ils sont très variés, ces TOC. Il aimerait connaître le lien entre justement les mécanismes neurologiques à l'origine de ces troubles et donc ces TOC.
Alors, les recherches ont montré que, enfin, maintenant, grâce à au PET scan, c'est à l'IRM fonctionnel, on a des techniques qui permettent de voir le cerveau en train de fonctionner.
Oui.
Quand on voit des gens qui n'ont pas de TOC, on a donc un certain fonctionnement du cerveau, et quand on le compare, on fait un PET scan ou un IRM fonctionnel à des patients qui ont des TOC, on voit qu'il y a des zones dans le cerveau qui fonctionnent anormalement au niveau des noyaux gris centraux, au niveau du cortex préfrontal, etc. Et lorsque ces patients sont guéris par la thérapie comportementale et ou les médicaments qui marchent dans les TOC, il y a un retour à un fonctionnement normal du cerveau.
Et ça, on le voit bien à l'image.
Ah, on le voit à l'image, on le voit à l'image, absolument.
Anne nous dit « Je souffre de TOC depuis l'âge de 14 ans. Mon frère est né, lui aussi, depuis l'âge de 15 ans. On a 7 ans de différence. Le facteur génétique. »
Bien sûr. Là, maintenant, c'est un consensus international que dans l'immense majorité des TOC, il y a toujours des exceptions, mais il y a un terrain génétique. Il y a eu les études sur les jumeaux, les vrais jumeaux, 87, ça veut dire 87% de concordance, c'est-à-dire quand un jumeau qui a exactement le même patrimoine génétique est atteint, son frère a 8,7 risques d'être atteint lui aussi. Mm-hmm. Alors vous dites, s'ils ont le même patrimoine et que c'est génétique, pourquoi pas 100%? Alors ça peut s'expliquer par la pénétrance. C'est-à-dire que une maladie qui a une pénétrance de 100%, ça veut dire quand on a le gène de la maladie s'exprime à chaque fois. Quand on a une pénétrance de 87%, quand on a le gène, on a la maladie que dans 87% des cas. Mmh. Et quand ce sont des faux jumeaux, ça tombe à 4,7. Et quand c'est la population générale, c'est une personne sur 50, c'est-à-dire 2% de la population. Donc on voit qu'il y a un terrain génétique. Puis moi qui en vois depuis 30 ans énormément chaque jour, je vois bien, il y a des familles de TOC. Là, je soigne en ce moment un jeune homme de 17 ans et sa maman, moi je ne m'occupe pas d'enfants, mais parle de son frère de 11 ans qui lui fait la vie, qui ne veut plus l'embrasser parce qu'elle est contaminée. C'est terrible. Et donc, les deux ont des TOC, les deux enfants. Là.
Gérard nous dit, depuis le début de notre relation, mon épouse est devenue de plus en plus maniaque. Elle m'impose sans arrêt de me laver les mains, voit des germes partout dans notre logement d'une manière qui me semble irrationnelle. Elle est paranoïaque sur la saleté des lieux publics. Notre sexualité en est affectée, mais son comportement ne me paraît pas véritablement maladif. Dans quelles limites peut-on parler de TOC?
Ah bon, il trouve que c'est pas maladif. Moi, j'aurais tendance à le penser, vous voyez, parce qu'il y a manifestement... qu'est-ce qui signe la maladie par rapport à des petites manies, justement, c'est l'absence de liberté de faire autrement. Vous voyez, dans la différence, on dit entre un alcoolique et un buveur excessif, l'alcoolique, il a perdu la liberté de ne pas boire. Mais elle a perdu sûrement la liberté de pas tout laver, de pas tout désinfecter, de toucher les barres de métro, etc. Et il y a même un retentissement sur leur vie, sur sa vie à elle, de la patiente, et même sur le couple. Donc on peut dire que là, on est entré carré dans la maladie, c'est net.
Autre exemple, celui de Sandra.
Chaque matin, c'est la même cérémonie. Pour apaiser ses fortes crises d'angoisse, Sandra répète à l'infini les mêmes gestes. Ses lunettes, sa brosse à dents, dans la tête de Sandra, tout fait l'objet d'un décompte, aussi obligatoire qu'inutile. Sa mère, elle, est utilisée pour mettre un terme à ses rituels grâce à un toc verbal impressionnant.
Il est quelle heure, là?
Il est 3h10.
T'es sûr?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
T'es sûr?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
T'es sûr?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
T'es sûr?
Oui.
Hein?
Oui.
Hein?
Oui.
Oh merde, ça va pas.
Voilà, Stéphanie Texier a fait beaucoup de montage dans le son parce qu'il y en avait encore beaucoup plus à écouter Franck Lamanière. Donc là, on voit la maman qui est obligée de se prêter aussi au rituel. Hein.
Oui, et alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut faire de la désescalade. Hein. C'est-à-dire que dans le cadre de la thérapie, justement, le but, c'est de réduire progressivement le rituel malgré l'angoisse que ça génère. Parce que la définition de compulsion, c'est quelque chose qu'on fait pour se sentir mieux. C'est-à-dire que là, en effet, si la mère ne lui dit pas oui et d'une d'une certaine façon, ça va pas. C'est comme une patiente, j'expliquais dans le livre, qui dit il fallait que son mari pouvait passer la nuit à lui dire bonne nuit, parce que c'était jamais le bon ton, il l'avait pas dit de la bonne façon.
Oui.
Bonne nuit, je t'aime, ou je sais plus, il y avait une formule absolument nécessaire. Et donc, il en pouvait plus. Et surtout, il travaillait le lendemain, jusqu'à 5h du matin, lui dire bonne nuit, ça pose problème. Et donc, ces compulsions-là, justement, là, c'est antithérapeutique, parce que plus il y a de oui, plus il y a de un, oui, tu, oui, un, ça peut durer, plus on en fait, plus il faudra en faire. C'est-à-dire que...
Et qu'est-ce qui se passe alors au moment où cette mère aurait décidé d'arrêter justement ce processus?
Surtout pas brutalement.
Oui, mais c'est ça.
Là, il y aurait une angoisse majeure. Il faut le faire. Dans le cadre d'une thérapie, enfin c'est un peu technique et difficile, mais il y a beaucoup de conseils d'ailleurs pour les proches dans le livre, parce que c'est beaucoup de questions qui reviennent. Mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois
alors
pas
justement
le faire,
vous parlez de thérapie comportementale avec en particulier la technique d'exposition avec prévention de réponses ritualisées. Qu'est-ce que c'est?
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec l'accord du patient, c'est pas sadique, on n'oblige pas les gens. Il faut d'abord, il y a une phase pédagogique. Il faut leur faire comprendre que parfois en leur présentant des patients qui ont suivi cette route et qui sont guéris, que c'est ça qui va les guérir. Hein. C'est-à-dire les médicaments, la thérapie cognitive ne sont que des moyens d'amener à faire ça. Alors qu'est-ce qui va guérir? C'est d'exposer le patient à des situations qui lui donnent l'envie de faire des compulsions, enfin le besoin de faire des compulsions, et l'aider à ne pas le faire. Alors, c'est pas facile. Donc ça, pour prendre un cas classique de peur de contamination, on va, mettons, toucher quelque chose que le patient trouve pas très propre. On va toucher une feuille blanche avec le plat de la main qui a touché cette chose soi-disant très sale. Et ensuite, on va demander au patient de toucher du bout du doigt. Alors, parfois, il veut pas. Alors, on lui dit, mais rappelez-vous, madame Truc, que je vous avais présenté, c'est comme ça qu'elle a guéri. Alors, parfois, ils l'acceptent. Ils le font. Du coup, là, ils sont exposés. Ils se sentent mal. Il y a du mal-être. Ils sentent un certain mal-être. Et ce mal-être, il doit partir avec le temps et non pas en faisant le rituel, pas qui se consisterait là à aller se laver les mains autant de fois qu'il veut. En faisant ça, progressivement, le mal-être est de plus en plus court et monte de moins en moins haut. Et un beau jour, il a beau faire ça, ça le gêne plus. Et c'est comme ça que progressivement, on améliore les tocs.
La peur de la contamination, c'était aussi l'histoire vraie du milliardaire Howard Hughes, retranscrit à l'écran par Martin Scorsese dans Aviator.
Apportez-moi mon lait. 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 Il doit ouvrir son cabas de la main droite et impérativement me le présenter à un angle de 45 degrés, de sorte que je puisse introduire ma main dans le cabas sans jamais toucher. Sans jamais toucher la toile. Repris du début. Repris du début. Repris du début. Si mes instructions ne sont pas scrupuleusement respectées, à la virgule près, le processus entier doit être repris du début.
Apportez-moi mon lait.
Repris.
Apportez-moi mon
du
lait.
Début.
Apportez-moi
repris.
Mon lait. Apportez-moi mon lait.
Du début.
Apportez-moi mon lait. Apportez-moi mon
repris.
Lait. Apportez-moi mon lait.
Du début.
Apportez-moi mon lait.
Voilà, Leonardo DiCaprio hein, dans ce film Aviator de Martin Scorsese. Allez, on termine avec deux questions, Franck Lamagna, des auditeurs. Jacques, qui demande la différence entre l'éthique et les tocs, justement. Si on a pas
alors,
abordé
les
ça tout à l'heure.
Sont des mouvements involontaires, souvent de la musculature, du coup. Mais il peut y avoir des tics complexes, comme dans la maladie de Gilles de la Tourette, où il y a des tics vocaux.
C'est un toc, justement, ce syndrome Gilles alors, de la Tourette, ou pas?
Non, c'est une maladie à part, c'est une entité à part. Alors, il y a des liens entre tics et tocs, et justement, il faut spécifier si le TOC est avec des tics ou des antécédents de tics ou sans antécédents de tics. Mais là, on entre dans la technique, sont quand même des affaires de spécialistes à ce moment-là.
Et Sabine demande comment se débarrasser de la trichotillomanie.
Alors la trichotillomanie, justement...
C'est les poils, ça. Hein.
Oui, ce sont des gens qui, enfin, surtout des femmes, 9 femmes pour un homme, qui s'arrachent les cheveux, ou les cils, ou les sourcils, ou les poils des jambes, ou les poils de pubis. Enfin, donc c'est de l'arrachage de poils, voilà, de poils, cheveux, etc. Et justement,
il y a la trichophobie aussi, il y a des gens qui ont peur des poils. Hein.
Ah oui, ça c'est encore autre chose. Mais dans la trichotillomanie, il y avait rien en français. Justement, j'ai fait un petit chapitre sur le traitement de la trichotillomanie pour expliquer comment on peut en venir à bout et parfois même peut-être tout seul, soi-même. Voilà.
Donc ça fonctionne bien, on peut s'en guérir.
C'est la trichotillomanie, c'est presque encore plus difficile à soigner que les TOC parce qu'il y a une sorte de certain plaisir à l'arrachage, il y a un soulagement. Alors que dans les TOC, ça n'est que contrainte et mal-être.
Merci beaucoup Franck Lamanière. TOC ou pas TOC, donc c'est cet ouvrage que vous publiez chez Odile Jacob avec une préface du professeur Bernard Granger, Reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Cet après-midi dans l'émission. Fabrice Drouel qui vient vapoter en studio pour nous présenter Affaires Sensibles.
Oui, ça va bien. Très très bien. Donc nous allons raconter un dossier si important que nous allons lui consacrer deux émissions, donc aujourd'hui et demain. C'est le procès Papon, jugé du 8 octobre 97 au 2 avril 98. Notre invité aujourd'hui et demain, ce sera le même, ce sera l'avocat Gérard Boulanger, premier avocat qui a accompagné les victimes dans leur quête de justice et qui bien sûr a participé en tant qu'avocat des parties civiles au procès.
Voilà, c'est donc Affaires Sensibles et ce sera juste après les informations. Merci Fabrice, à tout à l'heure.